have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver comme toutes les semaines dans l'Amérique et vous sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. Au micro de présentation, John Lyndon, Michel Joseph et Fred assurent la production. Mise en onde, Chang Wang. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Vous êtes sur VO Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. Selon les scientifiques de l'Agence océanique et atmosphérique américaine, juillet 2016 a été le mois le plus chaud de l'histoire moderne. Un record depuis le début des relevés de température en 1880, il y a donc 137 ans. Résultat, inondations, sécheresses, incendies et autres effets du changement climatique se multiplient à travers le monde. Aux États-Unis, la côte Est vient de subir une canicule sévère. La Louisiane a enregistré de fortes pluies et des inondations ont fait au moins 13 morts. La Californie, état le plus peuplé du pays, est en proie à d'énormes incendies. Tout cela démontre bien que le changement climatique est réel, bien que beaucoup aient encore du mal à l'accepter. Nous avons voulu cette semaine nous pencher sur cette actualité à leur question. Comment se manifeste le changement climatique là où vous vivez? C'est la question de cette émission. Nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous. Faites-nous part de vos réactions sur Facebook ou en direct au 001-202-619-3140. Et pour nous accompagner dans cette émission ce soir, nous aurons comme invité David Cherami depuis la Louisiane. David, bonsoir.
Bonsoir.
Merci pour votre disponibilité à participer à cette émission. Nous aurons également Abdul Razak Idrissa depuis Niamey. Abdul Razak, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là ce soir. Edgar Ngomeni depuis Los Angeles. Edgar, bonsoir.
Bonsoir.
Et enfin, nous aurons Alfari Issifou de Servir Afrique de l'Ouest. Bienvenue.
Bonsoir.
Voilà, je vais commencer par vous, Alfari, puisque vous êtes à la tête, vous dirigez un projet qui a été mis en place par la NASA et qui, me semble-t-il, a trait au changement climatique. De quoi s'agit-il? Alfari?
On va donner la parole pour participer à cette émission. Comme vous venez de le dire, le projet Servir vient d'être lancé le 14 juillet 2016 au niveau du centre régional AgriMet à Niamey. C'est un projet financé par l'USAID avec l'appui technique de la NASA. En fait, ce programme va travailler dans quatre domaines bien précis. Donc, il y a le domaine de la sécurité alimentaire, il y a le domaine des inondations et des catastrophes naturelles, il y a le domaine du climat et du temps. Et aussi dans le domaine de l'écosystème et de l'occupation des terres. C'est un programme qui va nous appuyer beaucoup en nous fournissant des données de très haute qualité, donc les données satellitaires à temps réel, qui va nous permettre de faire le suivi des événements extrêmes, comme vous venez de le dire. Depuis un certain temps, on est confronté à un changement climatique assez rude qui a beaucoup d'impact sur ce que nous faisons vraiment quotidiennement, tel que sur l'agriculture, sur l'hydrologie, ainsi de suite.
Voilà.
Donc,
oui,
donc,
vous restez avec nous, Alfari. Je vais me retourner vers David Cherami. David, vous êtes en Louisiane et c'est un peu triste ce qui arrive là-bas, mais vous êtes sur place. Quelle est la situation à votre niveau?
Bon, chez nous, c'est une situation assez étonnante, je dois dire, même si nous sommes habitués des ouragans et des grosses chaleurs et des extrémités de la météo. personne de son vivant se rappelle d'un temps qu'on a eu comme cette dernière semaine. C'était comme un ouragan, mais sans le vent. Mais sans la différence, c'est les ouragans, ça passe, et ça, bon, ça fait plein de dégâts, mais ça s'en va. Mais cet orage a l'air de rester un petit peu. Là, je regardais le radar, prévoit encore un peu de pluie. Et ça fait que tous les bayous, qui sont les cours d'eau de chez nous dans les marécages, sont pleins. Et là, je vous parle aussi de mon bureau dans un parc historique qui s'appelle Vermeillonville, qui parle de l'histoire de la région. Et je suis isolé. Il faut que je me rende ici par canoë parce que nous sommes au bord du bayou Vermillon qui a débordé, qui a inondé notre site et plein de villes. Il y a des centaines de gens ici à Lafayette même qui sont sans maison parce que les bayous et les canaux, etc. autour ont débordé. Mmh. Il y a jusqu'à un mètre d'eau dans certaines maisons et continue à pleuvoir. Donc c'est une situation qu'on n'a jamais connue ici. Donc,
voilà, David, vous savez nager quand même, non?
Oui, mais je suis un bougre du bayou, comme on dit chez nous. Là,
voilà.
C'est une manière, un pirogue, un canoë, je préfère. Mais je préfère ne pas nager dans ces eaux parce que nous avons des alligators.
Ah, d'accord. Donc, vous restez avec nous. Allons vers Los Angeles, en Californie. Edgar, vous vivez les incendies là-bas. Comment ça se présente, la situation?
Disons que pour l'instant, le département de feux et flammes qui bagarre tous les jours du matin au soir, ils font un travail formidable. Malgré qu'on a déjà près de 80 000 personnes qui ont dû être évacuées de leur maison à cause de l'avancée du feu, il faut quand même reconnaître que le feu a quand même pris à peu près 25 000 arts de territoire. C'est pas petit. Bon, aussi, à part le fait que les incendies qui sont liés justement au réchauffement climatique se passent, il y a aussi le fait que la température internationale qui augmente depuis des années déjà, on mesure à peu près à 13 degrés dans les 100 dernières années. Et les effets se voient déjà sur Los Angeles. On voit comment dire, on a des canicules dans les deux derniers mois. Au moins une fois par semaine, on a eu des records. Dans les deux derniers mois, au moins une fois par semaine. Donc c'est un changement qui est assez drastique, qui crée beaucoup de problèmes naturellement. La sécheresse, qui est aussi un autre problème, qui est à part les incendies. Donc c'est tout ça quoi, que la ville est en train d'essayer de gérer et mener à bien ce combat à long terme. Mais bon, je crois que la population commence ici à être un peu plus alerte par rapport aux problèmes et essaie de changer un peu leur mentalité par rapport à comment utiliser l'eau, comment se comporter dans les forêts et autres problèmes et autres choses du genre.
Alors, merci Edgar. Comme ouais. vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a eu des canicules, y compris dans la zone est ici. Abdul Razak, vous êtes à Niamey. Comment est-ce que, qu'est-ce que vous pensez déjà du changement climatique? Parce qu'à un moment, les gens ont tendance à penser que c'est rien, que ça n'existe pas. Est-ce que vous vivez cela à votre niveau?
Bien sûr que le Niger, de façon globale, et la capitale Niamey, on vit les effets de ces changements climatiques. Effectivement, comme vous le dites, beaucoup de citoyens pensent que c'est dans l'ordre normal des choses. Alors que pratiquement ici, au Niger, tous les extrêmes climatiques sont constatés, donc des sécheresses aux inondations, en passant par la rareté des précipitations qui engendrent donc une baisse de production au niveau agricole, mais aussi le cheptel est touché. Et puis, vous le savez, le Niger, tout pays sahélien qu'il soit, depuis quelques années en tout cas, on l'a constaté et même des études l'ont démontré. Les fortes températures, les températures qui ne font qu'augmenter. Donc vraiment, on vit ça au quotidien, ces effets du changement climatique ici au Niger.
Alors, David, cher ami, qu'est-ce qui a été fait pour essayer d'aider les gens là-bas en Louisiane à faire face à ces inondations? Il me semble que beaucoup ont perdu leur habitation et il y a eu des morts. Comment la situation est gérée par les autorités?
Oui, mais d'abord, on déplore déjà une bonne douzaine, 13 ou plus de morts, ce qui est regrettable, bien sûr. Mais malheureusement, nous avons un peu l'habitude, comme j'ai fait référence aux ouragans avant, les inondations. Donc, on était très bien organisés, surtout depuis Katrina. Les secours étaient beaucoup plus prompts et aussi je veux dire que la population qui n'a pas été touchée ou qui était moins touchée, aussi s'est mis la main à la pâte et pour aider son voisin qui n'a pas été aussi chanceux. Beaucoup de gens ici ont des bateaux, comme on est au bord de l'eau et on est entouré d'eau naturellement. Il y a beaucoup de pêcheurs, etc. Donc beaucoup de gens ont pris leur propre bateau pour aller secourir des gens qui étaient sur le toit, littéralement, le toit de leur maison, pour les amener à la terre sèche. Donc on s'est très bien organisé avec une sens de solidarité dans la communauté, mais aussi le gouvernement a fait ce qu'il a pu pour aider, apporter son aide aux gens.
Alors je vais lire ces quelques réactions qu'on reçoit sur Facebook. Celle-ci est de Elie Yao qui dit « En Côte d'Ivoire, on ressent énormément le résultat du changement climatique. Les pluies deviennent de plus en plus rares, ce qui se solde par la présence de la sécheresse et qui cause d'énormes difficultés sur la production du paysan. Soucieux devant ce tableau sombre de ce fléau, nous demandons aux pays pollueurs de diminuer, voire cesser d'émettre dans la nature les gaz à effet de serre, car la vie de milliers de personnes de par le monde en dépend. Je vais me tourner vers Edgar Ngomeni. Vous êtes étudiant en biologie. Une réaction comme celle-là, qui nous vient de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous en pensez?
Je comprends l'amertume de la réalité en fait qui se passe par rapport à ce problème. Mais il faut aussi voir les choses dans deux angles. Un pays, c'est-à-dire c'est comme par exemple une personne qui se lève tous les matins et qui dit je bois du café ou bien je lève tous les matins. C'est une habitude qui est consistante. C'est pas un truc qu'on va changer du jour au lendemain. Et c'est la même chose pour comment je sais qu'elle appelle les pays qui produisent ces gaz rares. La réalité maintenant est le fait que le taux de CO2 dans l'atmosphère est 30% plus élevé que celui qu'on avait il y a 50 à 60 ans. Maintenant, ce que beaucoup d'universités ici ont fait, ce sont certains projets sur lesquels moi je suis en train de faire des études par rapport au réchauffement climatique, c'est d'essayer de voir comment est-ce que ce dioxyde de carbone peut être utilisé depuis l'air et transformé de différentes manières afin de pouvoir diminuer par exemple, ce taux de CO2 dans l'air. Ça, par exemple, c'est une solution. Donc, je pense, en fait, le problème, majoritairement, à ce moment, ce n'est plus d'essayer de dire que certaines personnes doivent arrêter de faire ceci. C'est d'essayer de dire, OK, on est à ce point, comment est-ce qu'on peut essayer d'utiliser ce problème et le retourner à notre avantage?
Voilà.
Naturellement, on va dire, c'est vrai, les Africains n'ont pas peut-être assez d'argent pour essayer de travailler sur ce problème, mais je pense qu'avec les grands esprits africains que nous avons, cette jeunesse qui est vibrante d'idées et de personnalité, peut arriver quand même à trouver des solutions pour pouvoir
contrôler
ce problème. Je pense que ce serait la meilleure façon en fait d'attaquer le problème.
Alors, Abdul Razak, Edgar parlait tout à l'heure de l'Afrique. Est-ce qu'au niveau du Niger et même d'autres pays là-bas, est-ce qu'il y a des moyens qui sont mis à la disposition, par exemple des paysans, pour résoudre, par exemple, le problème de sécheresse?
Oui, disons que depuis quelques années, les services de l'État et des partenaires participent à sensibiliser les agriculteurs sur les effets de ces changements climatiques. Parce que vous savez, les mentalités ici sont un peu dures, comme on le disait en début d'émission, pour le paysan qui se trouve à l'intérieur du pays, pour lui, c'est dans l'ordre normal des choses qu'il constate, par exemple, une régression dans sa production. Ils sont un peu fatalistes. Et donc, les services de l'État participent à travers des activités de sensibilisation pour prouver qu'effectivement, la situation qu'ils connaissaient avant et celle d'aujourd'hui sont différentes et qu'il faut qu'ils s'adaptent. Donc, il y a plusieurs mesures qui sont envisagées donc, pour leur permettre d'être résilients face au changement climatique.
Voilà.
Et quand nous sommes en ligne avec le responsable du projet Servir Afrique de l'Ouest, entre autres solutions que les dirigeants et les responsables donc, des pays de l'Afrique de l'Ouest de façon générale et leurs partenaires sont en train d'envisager, c'est ce type de projet donc, que M. Al-Fari dirige aujourd'hui pour proposer donc, des solutions face à ces effets de ces changements climatiques.
Voilà, on va parler à M. Al-Fari tout à l'heure. Razak, on vous retrouve un peu plus tard à la fin de cette émission. On va prendre une petite pause et on se retrouve juste après. Voilà, Monsieur Alfari, quelles sont les solutions que vous proposez parce que votre projet concerne un certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest. Quelles sont les propositions que vous faites à ces pays-là? Comment est-ce que vous travaillez?
Disons, les solutions que nous allons apporter se situent à plusieurs niveaux. Il y a d'abord au niveau technique, c'est de renforcer la capacité des institutions nationales de la sous-région afin quand même qu'ils arrivent à mieux analyser la situation des phénomènes extrêmes pour apporter vraiment des solutions appropriées à ces problèmes. Le second niveau, ça se trouve au niveau vraiment des paysans, comme M. Abdourazak vient de le dire. Il y a d'abord la sensibilisation parce que dans tout ce phénomène de changement climatique, on a constaté quand même que c'est l'homme qui est complètement à l'origine. Et là, il faut qu'il y ait un changement de comportement, ainsi de suite. Et aussi, nous avons aussi quand même, on a eu à faire des études sur certaines techniques qui peuvent améliorer vraiment la production agricole, qui peuvent améliorer par exemple la végétation. Bon, c'est pas, je suis sûr que vous avez quand même une idée sur ce qui se passe au sud du Niger, le revertissement du Sahel.
Tout à fait.
Ça, c'est vraiment un exemple assez concret. Actuellement, nous sommes en train de penser aussi sur l'agriculture intelligente. Là aussi, ça serait une solution appropriée. Mais tout ça, là, il faut quand même d'abord qu'il y ait un comportement de changement du paysan afin qu'il s'approprie quand même de ces différentes techniques.
Voilà.
Moi, je suis à côté au bord du fleuve, mais je vous dis, l'irrigation fait défaut alors qu'il y a le fleuve qui coule. Et ça, il faut un peu de moyens, un peu de sensibilisation et je pense que les gens quand même vont arriver à s'adapter au phénomène de changement climatique.
D'accord. Changement climatique et sécheresse. Au niveau du Tchad, on a constaté, n'est-ce pas, avec le lac Tchad dont la superficie se réduit chaque fois. C'est ce que nous dit Christian Djerabi que nous avons en ligne. Christian, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Voilà, votre réaction sur le changement climatique?
Oui, par rapport au changement climatique, l'exemple palpable, c'est le cas du lac Tchad qui a perdu une superficie. Et par rapport à ce thème, j'aimerais poser quelques questions.
Allez-y.
Ma première question est de savoir quels sont les États les plus exposés au changement climatique?
Voilà, je vais retourner.
Ma deuxième question.
Oui, commençons par la première. Je vais la retourner à Alfari. Au niveau de l'Afrique, quels sont pour vous les pays qui sont le plus exposés au changement climatique et les conséquences qui en découlent?
Aujourd'hui, on ne peut pas identifier qu'un pays, tel pays est confronté. Je crois que c'est toute la région parce que. L'étude que nous avons fait une étude diachronique depuis les années 60 jusqu'à 2013 pour voir l'évolution des choses. C'est presque toute la sous-région qui est confrontée au problème de changement climatique. Bon, le lac Tchad dont vous venez de parler. On sait qu'en 1965, la surface d'eau libre au lac Tchad était de 25 km². Et en 2010, la surface est revenue à 1610 km². Vous voyez vraiment l'écart qu'il y a. Et si on prend les différentes zones, on trouve qu'il y a des problèmes. Donc le problème ne se situe pas à un pays, mais ça se situe au niveau global et c'est toute la région qui en pâtit.
Alors Edgar Ngomeni, vous pouvez compléter cette réponse de Alfari. Pour vous,
je suis totalement d'accord avec M. Alfari, parce que le problème n'est pas de savoir exactement qui est le plus touché, parce que chaque pays est touché différemment. On va voir différents exemples par rapport aux différentes zones climatiques qu'il y a. Bon, on est tous partis à l'école, on sait qu'il y a les zones tropicales, il y a la zone équatoriale, il y a la zone arctique. Maintenant, quand vous voyez chaque zone, dépendamment de ce que chaque zone propose à l'être humain, on va s'apercevoir qu'il y a une différente façon il y a un différent problème qui se porte. Par exemple, la zone arctique, par exemple, qui est en train de se faire réchauffer, est en train de s'émietter en pièces. Donc, dans les 50 à 70 prochaines années, on aura peut-être juste 50% de ce qui restait il y a peut-être 100 ans. Ce qui est un problème, c'est-à-dire que la Terre arctique est en train de partir en fumée. Alors, les États-Unis, par exemple, qui sont majoritairement un désert au niveau du sud et une forêt au niveau du nord, plus on va vers le sud, plus on va s'apercevoir que la chaleur, les températures ne font qu'augmenter. On va se retrouver avec les 33, 34 degrés Celsius, ce qui n'est plus normal du tout. Maintenant, quand on va partir au nord, on va s'apercevoir que, par exemple, la neige tombe tellement qu'on se retrouve avec des 2 mètres de neige par semaine. Ce qui était voilà. Avant, dans les années 80, pourrait se limiter à 20.
Voilà. Merci Edgar. David, cher ami, beaucoup, quand on parle en Afrique de changement climatique, on évoque la question des moyens. Mais à voir ce qui se passe en Louisiane, on est aux États-Unis, beaucoup ont envie de demander, est-ce que vous manquez de moyens pour faire face à ce qui arrive?
D'abord, il y a deux choses. D'abord, je dois dire que la Louisiane est un pays très conservateur. Vous savez peut-être aux nouvelles que M. Trump, candidat républicain à la Maison-Blanche, est en Louisiane en ce moment, et je peux vous dire qu'il va gagner l'État de Louisiane haut la main. On est très conservateur. Et je peux vous dire aussi, paradoxalement, il y a beaucoup de gens en Louisiane qui n'y croient pas au changement climatique. Là, je sais que c'est incroyable pour vos auditeurs et mes confrères qui parlent avec moi sur ce sujet. Mais d'abord, il y a peut-être les moyens, mais il n'y a pas une volonté politique vraiment de la part de beaucoup d'hommes politiques dans le sud des États-Unis et en Louisiane pour prendre ça au sérieux. Deuxième chose aussi, et on est aussi le premier État où on a été proclamé avec des réfugiés climatiques. Il y a une tribu d'Indiens, ici les Houma, qui habitent sur la côte, qui ont dû être évacués. Toute la tribu va être déplacée plus vers le nord parce que leur terre disparaît avec le montée des marées, le montée de l'eau, etc. Donc d'un côté, comme je veux dire, c'est une situation très, très paradoxale. Il y a encore des gens qui n'y croient pas, mais aussi la preuve nous garde directement dans la face. Donc, on a les moyens, oui, mais est-ce qu'on a la volonté politique? J'en suis pas sûr. Moi, je suis moins sûr.
Voilà. Donc, je vais prendre cette autre réaction de Alphonse Mbouaki sur Facebook qui dit « À Kinshasa naissent des boulangeries informelles qui utilisent des bois de chauffage dans les fours indigènes qui, si bien que les arbres, même fruitiers comme les manguiers, les avocatiers, sont sauvagement coupés pour fabriquer les pains. » Alors, Alfari, ce genre de comportement, détruire la forêt pour faire du pain dans les boulangeries, est-ce qu'il y a un volet sensibilisation dans votre projet?
Bien sûr, on a un volet quand même qui s'occupe des aspects de la déforestation. Il y a le phénomène, il faut qu'il y ait une sensibilisation pour pouvoir arrêter le phénomène, mais quand même, il faut qu'il y ait un échange, parce que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de ne pas faire quelque chose et en contrepartie, il faut lui proposer quelque chose. Sinon, cette personne va continuer toujours à faire la même chose. Donc, c'est ce genre de choses que nous sommes en train de mettre sur pied pour pouvoir vraiment sensibiliser les différents usagers, vraiment leur montrer qu'en dehors de la déforestation, c'est-à-dire la coupe de bois, ils peuvent faire autre chose pour pouvoir vivre. Donc, c'est sûr que il y a beaucoup d'options quand même qui sont ouvertes. Pensons quand même qu'une fois que le projet sera bien lancé, nous allons voir ce qu'on peut faire dans ce sens.
David, cher ami, vous avez évoqué la question tout à l'heure parlant de Donald Trump et donc des Républicains dont beaucoup ne croient pas au changement climatique. Est-ce qu'il y a une manière dont on peut leur faire passer ce message et leur dire que cette affaire est réelle ou pas?
Si j'avais la réponse à ces questions, c'est moi je serais candidat à la présidence, je pense, parce que c'est très difficile. Mais cela dit, il y a beaucoup de gens qui sont conscients du fait, qui reconnaissent la réalité, et d'autres qui sont beaucoup moins plus sceptiques, je dirais. Nous qui les croyons, je dirais, on essaie de parler avec les gens qui ne croient pas, mais quand chaque fois qu'on essaie de mettre les faits sur la table, ils ont plein d'arguments pour dire oui, mais ça a été manipulé par la NASA, il y a ceci, cela, il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Et pour les gens qui n'y croient pas, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour leur convaincre vraiment. Ils voient une grande conspiration derrière tout ça, et donc c'est là dans le domaine de la psychologie je dirais même des gens. Il faut, changer les esprits. Si je savais le faire, je le ferais.
Voilà.
Mais je crois qu'il faut quand même continuer à
sensibiliser les gens.
Et utiliser peut-être des... Même Katrina n'a pas vraiment fait beaucoup de convertis, je dirais.
David.
Donc, un événement comme ça, je ne sais pas combien de convertis on aura.
David, donc, chers invités, on va faire un dernier tour de table, 25 à 30 secondes pour le mot de la fin. On va commencer par Alfari.
Vraiment, je pense que le projet Servir va beaucoup aider la sous-région parce que nous allons essayer de renforcer la capacité des structures nationales qui, de leur tour, maintenant, vont essayer de vulgariser les différents produits, les voilà. Différentes techniques que nous allons mettre sur pied.
Merci.
Et je pense...
Merci. Abdul Razak, le mot de la fin en quelques secondes.
Oui, le mot de la fin, moi je pense que des initiatives telles que cette discussion que la VOA a engagée sont à encourager parce qu'on a l'impression qu'autour de ces questions, on ne parle pas assez. Alors que les populations, effectivement, elles ont besoin d'être informées et
voilà.
On a parfois l'impression qu'on fait assez alors que l'information ne passe pas. Et
merci.
C'est seulement cela, l'information qui va leur permettre.
Merci Abdou Razak. Edgar Ngomini, en 10 secondes, le mot de la fin.
Je suis d'accord avec tout le monde que naturellement le réchauffement climatique est un problème. Je crois juste que les gens doivent être plus informés et que nous devons juste essayer de trouver des solutions pour essayer de régler ce problème et prendre le taureau par les cornes, je crois.
Voilà.
C'est la meilleure façon.
David, cher ami, en quelques secondes, le mot de la fin.
Tout ce que je dirais, que je suis de solidarité avec vous, mes frères, on est tous sur la même planète. Et j'espère que tout le monde se rendra compte que cette planète est en péril et qu'il faut qu'on bouge pour faire quelque chose.
Voilà. Merci. C'est la fin de cette émission qui était produite par Michel Joseph, assisté de Fred. Chang Wang était à la mise en onde. John Lyndon, je vous l'ai présenté. Merci de rester fidèle au programme de VO Afrique. Bonsoir.